dans cette phrase. Alors, c'est vrai que le maître mot est éditeur. C'est une condition nécessaire et pas suffisante, mais elle est nécessaire. L'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, la civilisation, et avec civilisation humaine, humaniste, une tête solidaire du sens de l'avenir, tout ça est important et le meilleur antidote à ce qu'on appelle le radicalisme, le terrorisme, l'extrémisme, etc., demeure l'éducation. Quand je dis que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, malheureusement, les SS nazis, les suffis du Wagner, etc., étaient éduqués, civilisés, etc., et ont commis d'irréparables outils. Mais ça reste encore une fois une condition nécessaire. J'aime toujours cette double métaphore, celle du médecin légiste et celle du chirurgien. Le médecin légiste, lui, autopsie des cadavres. Donc, des dépouilles mortelles froides pour comprendre les raisons du décès. Il a le temps, il fait ce qu'il veut, avec ses connaissances, et puis il disperse comme ça pour comprendre. Là aussi, l'hypothèse 610, on est dans le sens froid de l'histoire. Et on essaye de comprendre ce qui a pu se passer dans l'histoire pour arriver à cette situation. Ils vont pardonner l'anglicisme, j'ai envie de dire, pour comprendre grand point pour rendre. Qu'est-ce qui n'aide pas? Pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation? Bien. Qu'est-ce qui allait mal? Donc ça, c'est le travail du médecin légiste. En gros, ça devient le travail aussi de l'historien. Il faudrait peut-être même revoir l'histoire et ne plus la voir d'une manière linéaire, l'anglicisme, l'européen, le français, cloisonné en antiquité, l'aliénage sans les qualités de latin ou en renaissance, avoir une vision autre, panoptique, comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de culture et de pensée, mais aussi comme une archéologie du temps présent. Et on pense que tout s'est passé ici à travers l'histoire. Et le chirurgien, lui, il opère du nouveau. Il a à cœur de sauver son malade, son patient. Il ne comparera pas d'autres considérations que de sauver le malade qu'il a entre les mains, il peut passer 5 heures, 6 heures dans le bloc opératoire pour sauver le patient. Si nous restreignons le sang uniquement à notre nation française, c'est qu'il y a lieu de faire ce type, c'est de sauver le malade. Que malheureusement, on a été atteint et ébranlé. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut cesser d'enseigner à des jeunes enfants que s'ils écoutaient la musique, ils seraient habités par les démons. J'entends bien. Et ce qui est plus grave, c'est qu'au lieu de dire « Bon, ce n'est qu'à lire l'Uberlu, le pauvre, ça lui a échappé, il n'a pas à le faire, il ne nous représente pas, au contraire, il avait un minimum de connaissances, il aurait su qu'on paradis, là, le paradis, c'est la fin. » En se soigner de cette thérapeute de l'âme par la musique. Il était musicologue. Avant pas que c'est musicologue. Parle pas de ce qui faisait la musique pour du frère, c'est très bien. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de bon ou de bien à quelqu'un qui n'est pas sensible à la musique. Parle pas du harpe ou du Géliade. Je parle de théoriciens, des pythagoriciens ou des néo-pythagoriciens. Je parle des frères de la pureté, de jeunes musiciens. Bon. Et au lieu de dire que ce soit pas bien, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison, on a entendu quelques-uns dire oh, mais il s'est fondé sur un avis, c'est discuté entre les savants, peut-être que son avis majoritaire, peut-être qu'il est minoritaire. Il a quand même rendu service à la communauté. Continuer dans ces tergiversations, dans ces affirmements, ce n'est pas bon, ni pour les jeunes enfants, ni pour les adultes, qui sont en fait presque dans un déni de voir où la difficulté véritable. Donc, du coup, une double adresse, une première assurément pour les enfants, leur ouvrir l'esprit. Allez à l'opéra. Vous avez les moyens.
mais ça devient suffisant. Allez à l'auteur. Ouvrez-vous sur le monde. Allez au Louvre. Allez au Louvre pour le 8e département, parce qu'il y a les arts de l'islam. C'est ce qu'il faut dire et faire aux enfants musulmans, aux non-musulmans. Parce qu'il y a une chimie à l'opéra. Peut-être ne pas être nécessairement sensible à l'armée, mais on peut le voir une fois dans sa vie, au moins. Ça peut accrocher. Que d'amener une telle dégression, que de continuer à dire aux enfants que si vous écoutez la musique, vous serez habité par le démon et vous serez transformé en singe et en corps. Comme je disais tout à l'heure, qu'il faut sortir de la pensée magique et de des représentations superstitieuses et de l'argument d'autorité quand il faut que ce soit fait, c'est changer aussi à des choses de fait. Je ne sais pas graver dans ça. Au lieu de faire la tête pour construire une énième mosquée, je peux comprendre qu'il manque des lieux dessus. 2 ans en fait pour construire une université, une école, un institut. J'ai rien contre un institut, mais qu'est-ce qui est enseigné des montants dans la plupart des cas? Je puis vous assurer que ce sont des monstres du haut de la chair, là je commence à me passionner, du haut de la chair de ces mosquées, en enseigne des monstres, et des constructions humaines, faites par des acteurs sociaux à travers l'histoire. Et quand on n'a même pas le discernement de savoir est-ce que ceci est divin, ou est-ce que ça a été dit par le prophète de l'islam, ou est-ce que ça a été dit par un quelconque manipulateur à travers l'histoire. Et on l'a sacralisé, et on n'ose même pas en parler, alors qu'on est au 21e siècle, et on est en Europe, on n'est pas à l'OCDE. Eh bien, c'est ça, d'abord, immunisons nos jeunes enfants, quels qu'ils soient, immunisons nos jeunes pousses, pour qu'ils n'aient pas les plus fragiles, pour qu'ils ne soient pas la croix facile à des sermonnaires, doctrinaires, des idéologues, des manipulateurs, des aventuriers, ou des gens haineux. C'est pour ça que la révolution au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau de la raison, c'est quelque chose de la plus haute importance. Nous devons immuniser, mutiliser nos jeunes enfants de toutes ces dérives, de se radicaliser. Soit on aura des jeunes citoyens ouverts sur le monde, et après, la spiritualité, la religion, etc., par réponse aux questions qui nous arrosent. La question n'est pas là. Je pense que l'aider pour la liberté de conscience, c'est dire non, il faut les brûler, c'est très encore au contraire. Mais au moins leur laisser la possibilité, la perspicacité de d'oser juger par eux-mêmes, d'oser penser par eux-mêmes, d'oser penser par eux-mêmes. Voilà ce qui me paraît de la pluie. Alors, mon ami, à propos de la liberté d'expression, a-t-elle besoin d'un cadre? Quel est le cadre de la liberté d'expression? Là aussi, ce que je vous dis, je fais mienne la parole de Saint-Thierry. Saint-Thierry est mort en 820. C'est ce qu'on appelle un maître éponyme. Il a donné son nom à la 3e école juridique dans l'obédience civique. Et il disait, dans les débats, dans les échanges, dans les controverses, mon avis de le croire juste, il peut être en passé d'erreur. Et l'avis de mon contradicteur, en fiction, de le croire faux, mais il peut retirer sa part de vérité. Donc je fais mien, ça. Il y a ce qu'on appelle une éthique du désaccord, une éthique du débat, une éthique de la discussion, qui s'assure d'avoir raison. Je vous donne simplement mon avis. Et si nous ne sommes pas d'accord, je dis que c'est une occasion pour moi d'apprendre. Je fais du désaccord le lieu de la médiation pour aller de voir où sont nos contradictions, ici d'aller trouver, d'essayer de comprendre, de prendre ça de beaucoup, d'essayer de.
En l'essentiel des choses, ils ne sont que la liberté d'expression n'a pas à être ni bordée, ni limitée, ni portée. C'est ça. On a bien souvent ajouté, mais, nonobstant, néanmoins, cependant, que fais-je encore. Ah ben, du coup, on commence à l'aborder. Et quand j'ai la difficulté, moi je me prends, et après on poursuit. Il se trouve que je ne me place même pas au niveau juridique. Le plus souvent, hélas, ou heureusement, selon, j'ai envie de dire hélas. Les juges déboutent ceux qui portent plainte et relâchent les offenseurs, les caricaturistes, etc. En revanche, je me place au niveau éthique. Pourquoi vais-je user de ma liberté d'expression pour atteindre la foi, le sentiment de mon frère l'homme? Moi, je ne le ferai pas. C'est un autre passé. Et là, le débat devient métaphysique. Est-ce que je suis si fragile de me sentir offensé par un dessin? Ou si c'est le cas, comment je vais réagir? Je vais réagir par la violence? Je vais réagir comme si, on me disait, je vais voir les tribunaux, mais je vois que les tribunaux ne vont pas me donner raison? Ou est-ce que c'est le moment où je vais subtiler cette violence-là et de voir comment je vais réagir autrement, conformément avec, je vais continuer dans l'exégèse sauvage que j'ai dénoncé tout à l'heure, le fameux verset 34 de la Sourate 41, qui dit clairement, quelle meilleure parole que de se dire, je me remets à Dieu. La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié se séparer, se transformer en ami et protecteur salarié. Il n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience, il n'y parvient que celui qui siège d'une grande sensibilité. C'est du temps, et c'est très beau, mais on ne le médite pas, on ne le lit pas, on ne sait même pas ce qu'il dit. Coati ne sait même pas que tel passage sera mis de lui. Les fous furieux de Daesh ne savent même pas. Ça existe. Et si ça existe, je ne comprends pas la spécificité qui est la leur. Et puis il y a Zemmour et compagnie qui viennent nous dire le tiers du Coran est un appel à la violence. Et voilà. Et quand un autre livre va alimenter un autre. Et puis au lieu d'appeler à la sagesse, appelle au sentier de son Seigneur par la sagesse, par une belle exhortation, et ne discute avec lui que de la manière la plus douce. Donc, entrer dans des considérations, mais quel cadre pour la liberté d'expression, etc. Enfin, disons ça, je ne me retarde pas votre question. Je ne suis pas sûr qu'il faille se la poser. Au mieux, je ramène le débat sur un plan éthique et métaphysique, et je ne le ramènerai pas sur un plan juridique, puisqu'il se trouve que en dehors des trois départements concordataires, le blasphème n'existe pas, en dehors. Du coup, il y a une anomalie pour la continuité de la loi, mais ça fait autre chose. Mais il se trouve que j'habite dans un département qui n'est pas concordataire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec, qu'est-ce que c'est que blasphémer? C'est injurier. C'est injurier à la religion, injurier à la divinité, injurier les prophètes ou le prophète, etc. Bien. Si je reste même dans ce logique-là, il y a une maxime du prophète qui dit ne n'injuriez pas les autres parce qu'ils vont réagir de la même sorte, de la même façon, donc vous allez en subir les insultes, les acrimonies, les avalies, etc. Donc bon, je ne presque pas pour ce que d'autres prennent comme étant de la faiblesse et que ces encore, mais c'est de l'intelligence, de la. De se lisser au-dessus de ce qu'on considère, sortir par le haut du ciel dans lequel on peut entendre. Voilà. Alors la question de notre ami, encore une fois,
c'est pas à propos du groupe que tu vas signifier que moi j'ai nécessairement raison. Donc là, nous voudrons un débat, et nous en parlons. Une introduction au débat. Et le plan, là, c'est plutôt le chirurgien qui veut sauver, c'est-à-dire le malade. On n'est plus dans l'analyse. On est dans comment faire. Il y a le feu dans la maison, ben, on fait sortir ce qu'on a de plus précieux. C'est ça. On se sent peut-être divisé, pour d'autres se sent peut-être divisé. Parce que si les livres brûlent, alors là, bon. Et donc la question de monsieur, c'est vrai que je l'ai dit l'année dernière, j'en appelle les lumières, parce que c'est perceptible, il y a les lumières, il y a les secondes lumières. J'ai dit dans mon exposé, il y a la séquence, moment de carte, moment de preuve, en tout cas, je dis beaucoup. Et sans vouloir parler ni l'un ni l'autre, j'essaie simplement de voir. Il se trouve qu'au 18e siècle, c'est ça que j'ai dit l'année dernière, parce qu'elle est repassée, on a deux contemporains. Il y en a un qui est né en 1703 et qui est mort en 1790. Une trajectoire de vie de 89 ans, une appréciable légère l'espérance de vie du 18e siècle. Il y en a un autre, donc âgé de 21 ans, qui est né en 1723 et mort en 1800. Le premier, sa formation, son environnement, son contexte social, culturel, son horizon métaphysique mais aussi géographique, l'a amené à produire les livres des grands péchés, comment aller à la mosquée, les livres sur les ablutions, un traité qui pourrait être qualifié d'intéressant sur le monothéisme, bien. Son contemporain, sa vision du monde, sa réflexion, sa formation, bien l'a amené à produire la religion dans les limites de la raison, critique de la raison pure. On voit, pour le premier, où est-ce que ça nous a amené, ça aurait pu être circonscrit dans l'espace et dans le temps, mais malheureusement ça a proliféré. Et on voit la contribution du second à élargir l'esprit, à réfléchir. Sachant que le second, quand il reçut son diplôme de docteur de l'université prussienne de Königsberg le 12 juin 1765, il avait comme en tête de son diplôme une injonction quant à l'acquisition du savoir, il n'y a rien d'autre qu'un verset coranique. Tout comme à l'université, à la faculté de droit d'Arras, il y a au fond de la faculté une injonction à juger avec équité, il n'y a rien d'autre qu'un verset coranique. Et pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, et pas des deux personnages, le premier c'est Mohamed Ibn Abdel Wahhab, le second, c'est Emmanuel Kant. Je dis ça avec beaucoup de froideur d'esprit à mieux que la réalité est celle-là. C'est par comparer Kant qui nous dit la religion dans les limites de la raison critique de la raison pure, et tout le travail qui a été produit par un philosophe, et un autre qui nous écrit un ouvrage sur le livre des grands péchés, comment aller à la mosquée et faire parfois plusieurs tours pour avoir le plus de pas possible, parce que dans chaque pas, il y a une bonne action. Je ne le dis pas pour blesser, je ne le dis pas là aussi pour blasphémer, je ne le dis pas pour être désagréable à quiconque ou pour ne pas honorer la mémoire d'un défunt. Je le dis parce que malheureusement, dans un cas, nous sommes arrivés comme ça, inconnus à la situation que nous connaissons maintenant, et dans l'autre, je dis parce que c'est merveilleux, je dis que ça a contribué à libérer. Ce n'est pas pareil. Et dans un cas, on a un souci intellectuel, mental, psychologique, et dans l'autre, on a un début de prise en charge de sa propre destinée. Or,
de mon point de vue, c'est tout ce qui conforme à la révélation corane.
Le fait de discerner par soi-même. Continue dans l'exégèse sauvage, les versets 190 à 100. Le fameux verset 190 de la Torah 3 nous dit, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doux et intelligents. Ceux qui, debout, assis, touchés les têtes, de méditer cela, disant, Seigneur, tu m'as pensé et tu es en vain gloire à toi, pour te préserver les éléments du monde. Normalement, on méditait un passage tel que celui-là et on le prenait au pied de la lettre. Et non, on va de régression en régression. Tragique. On traduit ce qu'on fait différemment. Il faut attendre une minute et ce matin-là pour nous sortir de la situation terrible dans laquelle nous sommes. Donc le moindre mot, pour revenir à la question de madame, éducation, acquisition du savoir, culture, connaissance, le savoir. C'est vraiment, je ne le sacrifie pas au fait de dire, c'est vraiment la clé pour sortir de l'ornière dans laquelle nous nous débattons.
Bonsoir, merci, merci Anne pour cette intervention fort intéressante. On a fait beaucoup de choses et comme à chaque habitude, à chaque fois que je viens ici, on a fait beaucoup de choses. Donc la question sur la liberté d'expression. J'ai vu sortir du cadre de la expression dans un islam, dans le juste musulman, j'adhère complètement à ce que vous avez dit. J'ai plutôt faire une projection par rapport à la liberté d'expression dans notre société en France. Donc, je vais vous donner des exemples pratiques. Très rapides. J'ai besoin de faire la solution pour poser la question. En fait, je viens à la pratique de la liberté d'expression. Effectivement, si les attentats de guerre dans cette autre année, un enseignement à tirer, c'est la quasi absence du droit musulman dans la presse. Dans la presse et dans les médias. Et j'avais l'impression de lire, de voir, surtout dans les médias publics, donc on a sur la 2, on a fait une émission, on a invité tout le monde, des intellectuels, des hommes politiques, tout sauf les musulmans. Et je dirais que cette barrière d'accès aux médias font que la voix des musulmans n'est pas entendue. Et lorsqu'on fait une voix soi-disant digne et entendue, on n'entend pas la voix des femmes, on entend plutôt la voix de ceux qui rentrent dans un jeu, et souvent le musulman est soit un personnage que vous connaissez bien, que tout le monde connaît aussi, qui est incapable de gagner trois phrases correctes, et qui souvent on lui donne, on lui ouvre la voix de la frère, enfin, c'est bien, là. Soit plutôt. Soit souvent aussi. Ce qui m'a personnellement touché, c'est ce discours que j'ai qualifié, il n'est pas demandé d'être moi, je dis islamophobe, qui est rentré dans, qui est en train de se banaliser, et à l'opposé, on ne voit pas vraiment ce chemin. Donc, je reviens à ma question, en tant que vous aussi un professionnel des médias, je suis un des suivants de votre émission ce matin, comment vous voyez ça? Quelle est la démarche? Et de la recette, en fait, pour faire que la voix du mouvement soit entendue.
C'est juste pour rappeler de mon impression que. Moi, j'ai une petite question par rapport à la liberté d'expression, pratiquement pratique. Hein. En fait, le problématique, c'est pas la liberté d'expression en elle-même, c'est la liberté d'expression à géométrie variable. Vous avez posé une question une fois à Benjamin Cora à Paris, on est en train de traiter sur les mémoires, et je lui ai posé la question, c'est exactement la même chose par rapport à la liberté d'expression. Bien sûr, les mémoires se valent. Et sa réponse, elle était claire et précise, elle ne se valent pas tant qu'il n'y a pas de derrière cette même mémoire à l'autre. Entre parenthèses. Voilà. Donc c'est justement ça. Je me suis rendu compte de la liberté d'expression qui est un problème. Merci.
Donc, votre question, on a droit de se lancer.
Alors, sur les deux questions, si on ne peut plus. Pertinent
il y a eu une âme charitable qui ne voulait pas donner le nom, et le nom a été donné. C'est vrai, ce n'est pas la calotte qui fait du mal. C'est son savoir, c'est sa communication, c'est son élocution, etc. Mais hélas, hélas, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'imams même autoproclamés. Et ils rattrapent par l'accoutrement ce qu'ils perdent en connaissance. Donc on a droit à la calotte, on a droit plutôt aux aspects extérieurs, les SER, les signes extérieurs de religiosité. Bon, alors on a droit à la gondoura, au kamis, etc. En Afghanistan, on s'habille comme les Afghans, au Yémen, on s'habille comme les Yéménites, à Rome, on s'habille comme les Italiens, comme les Romains, à Paris ou à Belfort, on s'habille comme les Parisiens ou les Belfortins. Je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas une tenue islamique, comme certains le pensent. Non. Et donc la calotte n'est nulle part que l'imam doit avoir une calotte sur la tête, blanche. Et là, dans certains cas, elle est même un peu grisâtre. Bon. Bon, alors, la fameuse liberté, oui, c'est vrai que, à l'ère de la dénationalisation de l'information, de l'ubérisation de l'économie, de la tutérisation de la politique et de la moralisation des esprits, c'est vrai que c'est difficile de se freiner comme ça une place pour les médias de grande écoute. Et j'ai eu l'occasion ici ou ailleurs de dire, à titre personnel, moi si je ne devais m'informer de notre propre société française qu'à travers l'unique canal de la revue détective, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France. Les tueries, l'abjection, les faits divers, un tel a tué sa femme, un autre c'est parce qu'il a fait, etc. Il n'y a que ça. Et si je ne devais avoir comme seule source d'information de ce qui se passe en France, que cette information-là, eh bien, finirait forcément par être francophobe, si je puis dire. Bon. Même si, à titre personnel, je pense que le mot islamophobie, ça revoit. Parce que, étymologiquement, islamophobie sous-entend avoir une peur irraisonnée, pathologique de l'islam. Et quelqu'un qui a une peur maladive et pathologique et irraisonnée, il faut d'abord compatir à son état. C'est-à-dire, bon, comme il est malade, il faut le guérir. On a les arachnophobes, on a les claustrophobes, on a les agoraphobes, on a les hydrophobes, etc. Et on les soigne d'abord. Et quelque part, si quelqu'un n'a comme source d'information que BFM, enfin, je n'ai pas une, ça ne pas nécessairement BFM, mais en tout cas, où est-il, n'importe cette scène-là, peut-être que quelque part, on finit hein, par se dire, bon, peut-être que adhérer à la tradition religieuse islamique, ça fait nécessairement des monstres. Parce qu'on a délégué sa capacité d'entendement aux relayeurs et aux faiseurs d'opinion. En revanche, j'ai revendiqué le paternalisme, la paternité du mot, la misislamie, comme on aurait dit, misogyne ou misanthrope, c'est-à-dire une haine assumée, déclarée comme telle, revendiquée de tout ce qui est islamiste, musulman, etc. Là, ça pose problème et ça devrait même, en principe, tomber sur le coup de la loi. C'est vrai que les grands médias, dits lourds, ne donne pas une possibilité de rééquilibrer les débats et de rendre les débats à la fois intelligibles, sereins et de... Oui, peut-être c'est notre ami Iskandi, peut-être c'est dans l'air. Et nous vivons malheureusement une ère de la défaite de la pensée, de l'abdication de la raison, de la démission de l'esprit, de l'abrasement de la réflexion et de la négation d'intelligence. Voilà, on n'est que dans l'émotionnel, on est dans l'affectif, on est dans le sensationnel, etc. À titre d'exemple, Mohamed Hakoun décède le 14 septembre 2010. De mémoire, c'était plus ou moins contemporain avec une histoire d'un petit margoulin de Nantes qui avait 4 concubines, une épouse et 3 concubines, voilé intégralement, il s'était un boucher ou un boulanger. Là, ça passait en boucle, ad nauseam, jusqu'à la nausée. Voilà, il s'est érigé comme grand moufti de l'islam ou comme grande autorité. On ne voyait que lui et on n'a pas dit un mot sur le décès d'un homme qui était le 4e de classe. Maintenant, il y en a un 5e après lui. Et à ce moment-là, il était le 4e qui a représenté la France dans ce qu'on appelle les Adam Flectures, les Gifford Flectures. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il se trouve que Adam Gifford, un écossais du 19e siècle, a instauré un séminaire d'une grande tenue philosophique et théologique, et ceux qui vont y enseigner, c'est l'équivalent du prix Nobel en philosophie, en théologie ou de la médaille française. Bien, les 4 Français étaient, Henri Bergson, Gabriel Marcel, Raymond Aron, Mohamed Arkoun. Maintenant, il y a Bruno Latour. Si au moins, suite à ce décès, on a eu une émission, on parlait de lui, on a vu un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc., ça aurait un peu équilibré les choses. Alors, j'ai été interpellé sur l'émission du dimanche matin. D'abord, on n'est pas dans les mêmes créneaux, dans les mêmes cours, c'est pas le prime time, comme on dit, si vous me pardonnez l'anglicisme. Deuxièmement, on n'a pas une réaction à chaud à l'événement, parce que les enregistrements se font suffisamment en amont, etc. Et puis, ce n'est pas suffisant. Dernier point pour cette question. Je crois ce que disait François Mauriac. Tout à l'heure, la citation pour le sacré, c'était Roger Caillois. Et là, c'est François Mauriac. Il disait, ce n'est que du jeu dans une jeune improbe tête qui s'aspirait au salut. J'ai dit tout à l'heure qu'au lieu de faire la quête pour construire une énième mosquée, il vaut mieux faire la quête pour construire une université, et peut-être aussi à côté pour avoir une chaîne de télévision. Aussi. Et ça rejoint la question de notre ami, Benjamin Stora, que je connais bien, a raison. L'idéal du TP, d'avoir une mémoire pour l'ensemble, sinon des êtres humains, mais ça serait au moins de la nation française, qu'il n'y ait pas une concurrence mémorielle. Et vous avez raison, il y a des groupes de pression ou des lobbies. En réalité, moi je ne reconnais qu'une seule communauté nationale d'un destin commun, et ça doit être comme ça. Nous retrouvons tous le référentiel, quel qu'il soit, mais il n'y a pas d'hiérarchisation au niveau des blessures, au niveau des souffrances, etc. Ce qui est innommable est innommable, ce qui est immonde est immonde, ce qui est abject, et il n'y a pas un privilège, si je puis dire, sur telle ou telle situation. Alors, j'étais devant des jeunes étudiants, et un jeune homme m'a dit, oui, bon, Charlie Hebdo, on a fait tout un tralala, et l'autre, là, l'humoriste Dieudonné, on le laisse pas. Je lui dis, malheureusement, mille fois hélas, on est aussi dans un état de droit. Il se trouve que la loi des taux fait que, pour l'antisémitisme, pour telle ou telle France de la nation, là, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, parce que sinon, c'est le coup de la loi. Une loi votée, une loi positive votée au Parlement. Et le fait que Dieudonné donc parle ainsi, il tombe sous le coup de la loi. Et pour ce qui concerne Charlie Hebdo, c'est l'histoire du blasphème. On n'est pas dans les départements concordataires, ou que sais-je encore. Donc si le débat devient de type juridique, ben, si la loi n'est pas bonne, il faut revoir la loi. Mais je trouve que c'est la loi, c'est comme ça. Donc le jeune homme, ça a compris qu'est-ce que c'est que la fabrication, j'allais dire, des lois, etc. Alors, au lieu de rentrer dans une logique de concurrence, de lobby, de groupe de pression, que sais-je encore, appelons, je suis peut-être un peu idéaliste ce soir, un sursaut et un véritable réveil des consciences pour que nous retrouvons le répréhensible ensemble et que la solidarité ne soit pas une solidarité d'instinct. Elle soit fondée sur le droit et la justice. Moi, si ma mère elle a tort, si elle a raison, elle a raison. Ce n'est pas une vision canusienne de la justice, puisqu'on attribue à Camus d'avoir dit « je préfère ma mère à la justice ». Eh bien non, ma mère n'est plus de ce monde, mais si elle était de ce monde et si elle avait fait des choses qui ne sont pas bien, ben je le dirais, et si elle fait des choses qui sont bien, je le dirais. Ça répond un peu à l'aphorisme prophétique qui dit « aide ton frère qui soit oppresseur ou opprimé ». On était un peu étonné, on a dit au prophète « ah, quand il est oppresseur, on le comprend ». Quand il est opprimé, on le comprend, mais quand il est oppresseur, pour qu'il aide son oppression. Parce que tu ne lui rends pas service en fermant les yeux et de voir que ton frère est un oppresseur. Bon, voilà, j'allais dire, de quoi fonder, asseoir les bases d'une vie à la fois fondée sur la solidarité, l'amour, la bonté, la miséricorde, mais aussi sur le droit et la justice.
Donc, je crois en particulier pour la théologie, qui est peut-être ce qui a le mieux réussi pour l'instant, en tout cas, où on est cette interprétation. Vous avez parlé d'un point fondamental des centres universitaires. Donc, par rapport à ce livre, qu'est-ce qui donne l'exercice? Je réponds toujours à cette question ces derniers temps par une citation de Antonin Gramsci.
Il disait, lorsque le passé se meurt et le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Et c'est vrai que la Tunisie, le peuple tunisien, vit une situation de transition et de clair-obscur. Le passé se meurt petit à petit. Il y a des situations sociales, économiques difficiles. Le futur n'est pas encore totalement advenu, n'est pas acquis, et cette situation-là est propice pour que surgissent les monstres. Et Goya dit les monstres ne peuvent surgir que lorsqu'il y a sommeil de la raison, il y a abdication de la raison, et on y revient encore. J'ai trouvé à supposer qu'il n'est pas perdu par le camp, pas suffit pour cautionner ce qui se passe en Tunisie, bien ou pas bien. Donc il faut toujours aussi avoir un peu d'humilité, en commençant par dire, j'ai trouvé que, je voulais vous dire que, bon, je le dis comme citoyen, rien d'autre, que leur constitution était bonne. J'aurais voulu, pour ma part, qu'il y eut l'égalité, pas entre les citoyens et les citoyennes, mais entre l'homme et la femme, véritablement. Parce que ça veut dire que si on n'est pas citoyen tunisien, eh bien on n'est pas préservé par la loi fondamentale. Et bon, ça je finale et je reste plus sur tel ou tel passage, mais ça me paraît important de l'inscrire dans la loi fondamentale. Le fait de ne pas considérer ce que de mon point de vue, à tort, parce que cette notion de Sharia, telle qu'on la comprend maintenant, je vous l'ai dit en début d'exposé, n'est que très récente, car la fermée en 19e, 20e siècle. Ce n'est plus la source de la législation, etc. Il faut libérer un peu les initiatives législatives, parce que cette Sharia ne nous dira rien sur le droit maritime, elle ne dira rien sur les arsenaux nucléaires, elle ne dira rien sur Internet, elle ne dira rien sur la militarisation de l'espace. Elle pourrait dire quelque chose certes sur le statut personnel, auquel cas, dans une compréhension critique, c'est la femme qui va en pâtir. Donc, du coup, avoir dans la loi fondamentale qu'il n'y a pas lieu de s'y référer, c'est une bonne chose. C'est pareil, alors il y a eu tout un débat sur s'il s'agit d'une société civile, enfin d'un état civil, ou s'il faut séparer la religion. Parce que dire, et là c'est de mon point de vue, c'est un sort, l'islam est la religion de l'État, depuis quand un État a une religion? Est-ce qu'un État a une confession? Si au moins on avait dit de la majorité des Tunisiens ou quelque chose comme ça. Mais le fait de d'inscrire comme article dans la loi fondamentale la confessionnalisation de l'État, mais ça c'est quoi? C'est un formalisme, c'est une administration, c'est que sais-je encore. Comment voudrait-on qu'on puisse confessionnaliser le cadre dans lequel on vit? Parce qu'on ne sait pas qu'à travers l'histoire, il n'y a pas eu longtemps une gouvernance au nom de la religion. Il y avait au contraire, vous allez peut-être le découvrir ce soir, une tradition dite de celle des miroirs des princes. C'est-à-dire une tradition qui vient du fond des Alpes, un vieux fond de sagesse. On voit un peu ce qu'a fait Alexandre le Grand, ce qu'a fait Cocroès, les Sassanides, etc. Et puis on a ceux qui viennent conseiller le prince. Il y a un traité d'éthique pour gouverner, des choses comme ça, et on ne trouve nulle part qu'il faut gouverner en nom de Dieu, que ceci. Ce sont des choses récentes. Sachez-le au moins que c'est récent à travers l'histoire. Donc, les va-et-vient à travers l'histoire sont quelque chose de vraiment important. Et si on peut recouvrer un humanisme comme il a prévalu en contexte islamique, le fameux humanisme d'expression arabe en contexte islamique, totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, ignoré totalement, eh bien, ça serait une bonne chose. On oublie que, en contexte islamique, il y avait le souci de l'homme, l'émergence d'un sujet humain. J'ai cité le frère de la sûreté, Ikhwan Safa pour les Arabiens, les amants de la fidélité. C'est pas leur titre. C'était une sorte de confrérie secrète pour X raisons et un certain Tawhidi a trahi, si je puis dire, en donnant le nom de Tawhidi Saint parmi eux. Et c'est Tawhidi qui disait, il est mort en 1023, est plus vaste encore que l'univers sans les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. Parce qu'il ne disait rien d'autre que ce que disait Terence, l'esclave affranchi. Je suis homme, rien de plus, je suis humain, il m'est étranger. Il ne disait rien d'autre que ce que disait Protagoras. L'homme est la mesure de toutes choses, de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont, de ce qu'ils ne sont pas, de ce qu'elles ne sont pas. Donc j'espère que d'abord le peuple tunisien soit préservé de ces attentats, de ce terrorisme abject. Il l'a vraiment mis à genoux. Qu'il soit aidé. Je ne verse pas dans la concurrence des aides ou quoi que ce soit. Quand je vois ce que nous avons donné au peuple grec. Et pourquoi pas, parfois à fond perdu. Et à un moment donné, Angela Merkel, on a dit, elle en a eu marre. Mais bon, si on en avait donné le tiers ou le quart de ce qu'on avait donné aussi au peuple grec, on l'avait donné au peuple tunisien, en sentant peut-être qu'on se serait sorti de la situation dans laquelle il se trouve encore maintenant. Mais il faut trouver les ressources en soi. Il y a une. Ce n'est peut-être pas le cas maintenant pour l'Égypte. Je n'ose même pas parler du cas syrien, qui est l'Apocalypse, le cas yéménite aussi. Voilà.
Je vais d'abord remercier Alex pour cette présentation. On allant dans le sens de cette interprétation un petit peu contradictoire de la religion, qui m'a interpellé, c'est la visite du président iranien et que de ce point aussi les Saoudiens, quand ils visitent les pays occidentaux, ils s'arrangent pour que on mette des draps sur les statuaires, sur à boycotter des repas avec du vin, Par contre, ils permettent de faire une guerre à par état interposé on tue des enfants. C'est vraiment le summum de l'hypocrisie au nom de la religion. Parce que ça m'a complètement écœuré. Parce que avant c'était les Saoudiens qui le faisaient, mais maintenant c'est les Iraniens. Et on voit bien que pour revenir à la gouverner avec la religion, ce que ça donne actuellement. Quand on voit les enfants syriens mourir sous les talibans, sous les milices de certaines carrément iraniennes, on voit que nous donne ce modèle de religiosité entre parents. Voilà, donc c'était juste une
Vous
voulez
dire que
aussi sous des bombes lâchés par les plus grandes puissances de ce monde. On ne dit aussi pas, il ne faut pas l'oublier. Malheureusement, la cause de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde a commencé depuis la guerre du Golfe jusqu'à aujourd'hui. Et ça, tout le monde maintenant, on saisit de l'islam, tel bouclier, telle arme, telle cible, et c'est tout. Et on ne parle que de ça. Mais on nous oublie de nous dire, voilà, les intérêts, c'est quoi? Pourquoi les têtes attaquent l'Irak en disant l'Irak, c'est la bombe atomique. Et quelques années après, on a détruit tout le pays. On a tué des millions d'Irakiens. Qui c'est qui les a tués? Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas les musulmans. Ce sont qui? Ce sont les Américains avec la coalition. Et ça, certainement pas. C'est bizarre quand même.
Mais ça n'est pas.
C'est bizarre quand même qu'on ne parle pas de ces choses-là. Donc, vous ne pouvez pas tirer ce qui est dans l'islam.
On est toujours en train de le créer.
De ne jamais interrompre mon interlocuteur jusqu'à ce qu'il paraisse par lui-même. Donc c'était un peu le cas, parce que ça appelle d'une part. Deuxièmement, il se trouve que dans l'énumération des différentes strates dans le corps de mon exposé tout à l'heure, il dit qu'il y a différentes raisons, et parmi ces raisons-là, ces facteurs, il y a la raison stratégique, ou géostratégique, et qu'il y a des facteurs exogènes ou extrinsèques à la difficulté que nous connaissons, et j'ai commencé à énumérer Laurence d'Arabie, Saïd Spico, Balfour, le traité de Sèvres, le traité de Lausanne, les résolutions de l'ONU qui ne sont pas citées, Suez, et puis les guerres du Golfe, etc. J'ai même cité Abu Ghraib. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai donné en point de flash comme ça les raisons qui ont fait qu'une région du monde et des peuples ont souffert véritablement et une guerre a été menée sur un mensonge éhonté au su et au vu de tous. Il se trouve aussi que je suis un homme discipliné. On m'a fait venir ce soir pour parler de la liberté d'expression dans l'islam ou avec l'islam. Je me conforme au sujet. Je ne vais pas parler de la guerre du Golfe et du peuple irakien ou du peuple syrien, pour le sujet, c'est la liberté d'expression. Troisième argument, hélas, oui, l'islam, oui, parce qu'on a des terroristes qui tuent au nom de cette tradition religieuse. On s'émeut de voir l'étiquette islamique accolée à État pour Daesh, et on ne s'émeut pas de voir islamique accolée à République pour l'Iran, ou pour la Mauritanie, ou pour le Pakistan. Depuis quand on a une république islamique? La république n'a pas de confession.
comme l'État n'a pas de conception. On ne peut pas dire, mais non, ce n'est qu'un prétendu État, c'est le califat de la terreur, ce n'est pas, c'est un pseudo-État et ce n'est pas un État. Il ne faut pas que ce soit un État islamique et l'accepter de fait pour l'Iran. La République islamique d'Iran, la République islamique de Mauritanie, la République islamique du Pakistan. Là aussi, ce sont des mensonges et de l'hypocrisie. Et tu as tout à fait raison, c'est de l'hypocrisie et de la schizophrénie. Et malheureusement, on a bercé le peuple aussi dans des certitudes.
Depuis tout à l'heure, je dis, pas plein de faire étalage des américitions, mais tant pis, je vais encore citer Kierkegaard.
Soren Kierkegaard me disait, il arrivera que le feu crie dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon va en avertir le public.
On pensa qu'il faisait de l'esprit ou en vie. Et on l'applaudit. Il insista. Les applaudissements redoublèrent et on vit de plus belle. C'est ainsi que périra le monde dans l'hilarité générale de ceux qui, au mieux, en dehors de leur certitude, pensent que tout n'est que plaisanterie et divertissement. Ça c'est au mieux, en dehors des certitudes, on pense que c'est de la plaisanterie. À un moment donné, il faudrait peut-être aussi sortir de ces certitudes-là. C'est important de s'ouvrir sur le monde et de voir en soi, chez soi, les manquements à ce qu'on dénonce. Et donc l'affaire de l'Irak, nous sommes d'accord. On a bien vu tous ce Colin Powell, le pauvre malheureux. Personne ne voudrait être à sa place parce qu'il est en train de mentir. Il a déshonoré, j'allais dire, le peuple américain, sur injonction, avec sa fiole, etc., on envahit un peuple, on sème le désarroi et on récolte aussi, ou en partie, ce qui se passe. Parce qu'on a mis en place un nominalité qui n'a pas pu être à la hauteur d'un Mandela. Il est devenu vindicatif, revanchard, humilié les sunnites. Et cela, ce candidat, autant s'allier avec le diable. Et le diable est aussi, disons là, Daesh, c'est un acronyme arabe qui, pour la première fois, a une langue sémitique si après, sans qu'il y ait un sens. Parce que le précédent, c'était le Hamas. Hamas, c'est le mouvement de la résistance islamique. Mais je trouve que ça a un sens. C'est l'excès de zèle, la ferveur, l'enthousiasme, ce que vous voulez. Et Daesh n'a aucun sens. Si il a en homonymie, il y a ça, et ça, c'est la perversité. Voilà. Et donc, j'en appelle au sursaut des consciences et des peurs avant. Et parce que tel que vous êtes, vous serez administré.